Art, culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Les lumières du soir sur Château-Gontier, la Mayenne qui serpente à travers champs, les fleurs au jardin, les visages en ombre et lumière, ce sont les thèmes de prédilection du peintre André Jude. Ce grand artiste est installé dans le sud Mayenne et j'ai la joie de le rencontrer chez lui aujourd'hui. André Jude, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre, vous êtes dessinateur, vous êtes sculpteur, vous exposez dans la France entière. Je voulais savoir d'abord, est-ce que selon vous, vous appartenez à un courant de peinture spécifique ou non ?
Oui, je pense qu'on est peintre, on est empreint de tout ce qui est autour de nous. Donc notre époque, notre culture, je suis en France, je suis pas en Australie. Et en plus, on reçoit un enseignement de peinture par quelqu'un, par des personnes. J'ai eu plusieurs personnes à l'école déjà. J'ai eu un très très bon professeur de peinture au collège. Et ensuite, avec Monsieur Lejeune, effectivement, à Étampes. Même si on s'en rend pas compte quand on est jeune, on a l'impression qu'on existe par nous-mêmes, mais en fait, c'est faux. En fait, on se reçoit beaucoup de tout ce qu'on reçoit. Et effectivement, donc du coup, on peut dire que le fait d'avoir été élève de Monsieur Lejeune, c'est mes racines, tout simplement. Voilà.
Comment peut-on caractériser votre peinture ? D'abord, c'est de l'huile. Moi, je dirais que c'est quand même figuratif.
Alors, l'enseignement de Monsieur Lejeune, justement, ce qui était spécifique, en fait, c'est que le style n'est pas vraiment important, en fait. Ce qui est vraiment important, c'est le regard. L'enseignement que j'ai reçu et ce que je fais, c'est de peindre d'après nature. Mais en fait, c'est un prétexte. Je dirais que fondamentalement, ce que je cherche, c'est une recherche de vérité. On recherche la vérité. Et la vérité du peintre, c'est pas des idées, c'est la lumière. Dans cette école, hein, qui est quand même... C'est finalement de se dire je cherche à dépasser ce que je comprends de la réalité en regardant ce que je vois et non pas ce que je pense. C'est vraiment le gros axe de pensée de la peinture que je fais. Voilà.
Et alors, quand on regarde chez vous, là, on est installé dans la pièce principale. Bon, c'est vrai qu'on a des très grands formats, plus petits, des fleurs, des anges. La dimension religieuse compte dans votre peinture beaucoup ?
Ah oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que, en fait, Monsieur Lejeune faisait une peinture quasiment exclusivement religieuse, donc que des thèmes bibliques. Et son enseignement, lui, était très, comment dire, donc je disais très, entre guillemets, figuratif, hein, pour faire court. Mais lui-même, effectivement, était très dans une peinture très religieuse, très d'imagination. Je me disais, mais bon, moi je suis catholique, je peins, et je peins que des choses pas religieuses. Et j'avais presque un complexe à me dire, ouais, je peins que des choses profanes, voilà, exactement. Et au bout d'un moment, il y a une amie qui assez spirituelle qui m'a dit, mais c'est pas du tout contradictoire, c'est parce qu'en fait, Dieu se retrouve partout. Et effectivement, c'est l'œuvre de Dieu, quoi, tout simplement, qu'on met en valeur. Et c'est apprendre en fait à avoir un nouveau regard sur la création. Justement, on n'est plus dans un regard utilitaire où on va, on apprend à regarder aux gens et à revoir ce qui est beau dans les choses simples.
C'est-à-dire que vous cherchez dans la réalité autre chose que vous-même. Ce qu'on voit souvent avec les artistes du 19e ou du 20e, on fait du Picasso ou on fait du... Et là, c'est la réalité d'abord qui s'impose à vous et vous ne cherchez pas à faire du André Jude.
Exactement, ouais. Ouais. Et je donne des cours et effectivement, et souvent c'est question d'élèves, ouais, mais comment est-ce qu'on trouve son style ou... Et ce n'est pas la question, hein. La question c'est la recherche de la vérité. Et en fait, quand on est comme ça dans cette exigence-là, en fait, c'est là où on se révèle. Au moment où on travaille, c'est un peu comme un cuisinier, il a ses recettes, ses trucs à appliquer, tout ça, il travaille. Mais en fait, sans qu'on s'en rende compte, on devient nous-mêmes et j'ai presque de manière involontaire. Et alors qu'effectivement, si on cherche à se construire un personnage, à vouloir faire un style, etc., et ben on est dans les trucs. Et dans la peinture, c'est très souvent effectivement le cas. Hein. On veut faire des trucs et à ce moment-là, on ne sort pas de ces trucs. Et à ce moment-là, ça devient un truc un peu... ça devient une image. on veut pas des images, on veut plus, on veut de la peinture, on veut un truc plus profond, plus vrai, plus profond. Ouais.
Peut-être Michel-Ange qui disait « l'artiste trouve sa vérité dans son œuvre ». Enfin, l'être même de la personne, ou son talent, ou son style même, vont sortir, mais naturellement.
Peut-être aussi dans son œuvre, et aussi par le regard des autres. Moi, je me suis rendu compte qu'en commençant mes expositions de peinture, les commentaires des gens me faisaient prendre conscience de ce que je faisais, ce que mes tableaux dégageaient. Et moi, je ne me rendais pas compte. Donc, on se reçoit des autres aussi.
Vous peignez, c'est votre métier en plus, enfin c'est votre, vraiment votre moteur dans votre vie. Et vous donnez aussi des cours et vous proposez des stages.
Alors assez rapidement, on était dans un petit village à la Bazouge de Chémeray. Je commence à donner des cours en me disant, bon, bah, de toute façon, si j'aime pas ça, j'arrêterai. Bon, là, il n'y avait pas de nécessité absolue. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais jeune, donc j'avais l'atelier de Monsieur Lejeune, qui était un atelier municipal, donc un peu informel, sans cursus, sans diplôme, sans rien. Il y avait juste les cours le week-end. Donc, et j'étais un peu déstabilisé par ça, parce que j'arrivais d'études scientifiques avec un diplôme, avec la faculté, même à la fac, avec des cours, etc. Et donc, pour moi, c'était un petit peu difficile de vivre, de passer dans le monde artistique comme ça, sans filet, j'ai envie de dire. Et donc très vite, avec Amandine, mon épouse, on s'est dit qu'on donnerait des cours, on chercherait à faire une école de peinture, parce que quand on est jeune, on a été à pas mal de cours sur Paris, des cours de... Il n'y avait pas d'enseignement, en fait. Il y avait de la pratique, les gens avaient des trucs, justement, dont on parlait tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'enseignement de fond, de base, et puis de fond sur ce qu'est vraiment l'art, en fait. Hein. Et du coup... ayant beaucoup reçu de Monsieur Lejeune, on s'est toujours dit, à un moment donné, on cherchera à donner des cours. Donc on a fait le pas. On était très contents en fait de ce qui se passait, des relations avec les élèves. Et à un moment donné, on était très amis avec une dame qui a une génération de plus que nous, et qui était spirituellement, on était très proches d'elle. Et à un moment donné, elle nous a dit, mais c'est drôle, comme la démarche que vous faites en peinture, c'est très proche de la démarche spirituelle. Et on s'est dit, tiens, c'est amusant un jour de faire des stages de peinture ensemble, où il y aurait d'un côté la peinture et de l'autre côté un enseignement spirituel. Et puis ça a attendu un petit peu quelques années. Et puis à un moment donné, on a fait le pas. On a fait le stage avec donc, cours de peinture la journée et des enseignements spirituels le soir. Puis avec des temps de louange. Temps de louange et puis la messe le soir. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, les deux se complétaient très, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture, à son petit niveau, ouvrait un petit peu une brèche dans le cœur. Et le spirituel, tout d'un coup, venait nourrir cette brèche qui s'est ouverte par l'art, curieusement. Et on s'aperçoit que vraiment, il y a des très, très belles choses qui se passent pendant nos stages, parce qu'il y a cette espèce de complémentarité entre les deux.
Ce genre de stage se fait sous quelle forme? Alors, ça dure combien de temps? On s'inscrit à l'avance? Et à côté, est-ce que vous dispensez des cours spécifiquement de peinture, c'est tout?
Alors, en fait, ça se passe sur une semaine. Pour l'instant, on faisait qu'un stage par an, au début juillet. Et donc, on a eu entre 6 et 8 heures de peinture par jour. Le matin, on commence par un petit temps de louange. Donc, après, on passe au cours. À la peinture, donc qui est toujours d'après nature, hein, donc soit un portrait, soit en paysage, soit en début de semaine on fait du dessin aussi. Voilà, temps de midi, de repas, normal. Et puis on finit vers 5h30, 6h. Après, on a la messe, donc chez les sœurs, on avait la chance d'avoir la messe chez les sœurs ici à Château-Gontier. Et puis après, un petit temps en apéritif, un petit temps d'enseignement spirituel, voilà. Donc, qui était fait au début par notre amie. Et puis maintenant, elle nous a dit, vous êtes assez grand, je fais plus, c'est à vous de le faire.
Et ça s'adresse à des gens qui sont vraiment débutants en peinture ou il faut avoir une certaine expérience déjà?
Alors, les gens qui sont débutants sont avantagés parce qu'en fait, ils n'ont pas à désapprendre. Donc, ça s'adresse à tout le monde. En fait, l'idée, c'est de vouloir apprendre. C'est juste une soif d'apprendre qui est importante.
Et sinon, vous faites toujours vos cours du lundi après-midi ou... Donc, vous avez en plus d'autres cours.
Ce qui se passe, c'est que justement, on a fait commencer par faire les stages. Et après, les gens ont dit, oui, mais nous, on se retrouve le bec dans l'eau, on ne sait pas quoi faire, etc. Et donc, du coup, j'ai fait des cours, effectivement, une journée par mois. Donc ici à Château-Gontier et à Paris aussi, puisque des gens qui étaient sur Paris qui avaient fait le stage et qui étaient un peu frustrés. Donc c'est des journées complètes, donc ça a beaucoup d'avantages de pouvoir faire une coupure par rapport à la vie quotidienne et de se mettre dedans, de faire une journée par mois.
Et alors je suis aussi venue vous rencontrer, André Jude, dans votre atelier, votre maison, parce que pour 2021, vous avez un projet spécifique. Alors nous allons vous écouter, nous raconter votre projet après la pause musicale. Alors nous voici maintenant à l'étage dans l'atelier d'André Jude. Une jolie statue d'ailleurs de Pontmain qui est là et qui veille et qui inspire André. Des croquis avec votre fille André, c'est ça? Et puis une ébauche déjà en terre jaune qui devrait inspirer la suite des événements avec des projets de statues, une plus petite et une plus grande. Qu'est-ce que vous recherchez?
Alors, j'ai beaucoup écouté des disques qui viennent du sanctuaire de Pontmain, sur justement la description de, je ne me souviens plus le nom du père, mais sur la description qui était présent en fait à l'apparition et qui raconte, c'est plutôt adressé aux enfants, mais je l'écoutais avec grand plaisir. Et justement, pendant que je travaillais, j'écoutais pour essayer vraiment d'être au service de la Vierge, tout simplement, hein, pas que ce soit mon idée, mais essayer d'être fidèle à... Le but, c'est d'aider les gens à prier, en fait, à prier et se mettre dans la spiritualité, entre guillemets, de Pontmain. Ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, on voit souvent la Vierge qui est avec un visage grave et douloureux, alors qu'en fait, quand on écoute, c'est quand même globalement joyeux. Globalement joyeux, globalement la Vierge qui se réjouit du chant des enfants. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt cet aspect-là que j'aurais voulu développer, puisque effectivement dans les statues, c'est pas trop ce qu'on voit. Donc après, je suis pas contre de faire différentes statues. Il y a plein de questions assez importantes à se poser et qui c'est pas facile d'y répondre comme ça, hein, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup d'étapes dans l'apparition, comment faire quoi? Soit on fait effectivement quand on visite Pontmain, il y a carrément les différentes statues avec toutes les étapes. Donc c'est pas le but hein, de faire toutes les étapes une par une, mais de trouver un petit peu que la statue finalement englobe un petit peu l'ensemble de l'apparition. Donc c'est pas très facile techniquement pour moi de me dire tiens est-ce qu'elle doit sourire, pas sourire, est-ce qu'elle doit porter la croix, pas porter la croix, est-ce qu'elle doit avoir une petite croix blanche sur les épaules, est-ce que la petite croix rouge sur la poitrine. c'est en fait il y a plein de choses hein, dans l'apparition de Pontmain. Donc il y a aussi des questions toutes bêtes hein, pour moi, mais auxquelles on pense pas quand on voit une statue. Mais donc elle est dans le ciel, donc je peux pas la faire dans le ciel moi. Je suis obligé de faire un support. Donc comment faire le socle? Et on voit les statues anciennes, ils mettaient des espèces de nuages, mais en fait, il n'y a pas de nuages. Donc, le bandeau sur lequel le texte apparaît, c'est clairement dit que c'est un bandeau rectangulaire, très, très en largeur. Donc, comment faire pour mettre tout le texte qui est assez grand et sans que ce bandeau-là se casse, hein, si on encore lâche chez soi. Donc, c'est plein de questions auxquelles il faut répondre. Voilà.
Et vous la feriez en couleur ou en terre enfin, couleur terre ou avec les couleurs de l'apparition?
Les deux, mon capitaine. Parce que je crois que justement, il y a des gens qui vont aimer que ce soit en couleur naturelle et puis d'autres qui vont aimer que ce soit en couleur. Donc, je pense qu'il faut proposer les deux. La même statue proposée dans les deux, je pense que... Il y a quelques années, j'avais déjà travaillé sur la Vierge de Pontmain et le projet n'avait pas abouti. Mais j'avais eu un livre qui était très poussé sur les apparitions et justement, il parlait des réactions des voyants, des enfants qui avaient vu la Vierge par rapport aux statues. Et c'est très amusant parce qu'à un moment donné, ils se moquaient de certaines statues, de sculpteurs en disant « Ah, c'est la Vierge qui danse !» Parce qu'en fait, elle n'était pas comme ça, elle ne dansait pas, elle était droite et il n'y avait pas de déhanchement. Donc je m'étais dit « Oh là là, le pauvre sculpteur, c'est la Vierge qui est en marbre dans le sanctuaire sur la gauche, donc qui est restée en couleur naturelle. Elle est très belle comme statue. Hein. » Et effectivement, pour un artiste, on va chercher à... dans une statue à mettre du mouvement. Et là, donc, les enfants s'étaient moqués de ça en disant qu'ils l'avaient appelée la Vierge qui danse. Donc effectivement, il faut rester fidèle à l'apparition et pas vouloir imprimer son désir d'artiste.
Oui, mais peut-être que malgré vous, vous allez traduire ce qui se passe au fond de vous en étudiant l'apparition ou en vous laissant toucher par l'apparition. Il y a peut-être des choses qui sortiront de vous et qui pourront d'ailleurs nourrir le regard et la piété des autres.
Quand tout à l'heure on parlait de la peinture, le regard des autres nous fait voir des choses qu'on ne voit pas. Et je pense que de la même manière, je pense que le but, moi mon but franchement, c'est, je le dis entre nous, mais c'est d'être inspiré. Et du coup, le but, c'est... c'est qu'on oublie que ce soit moi qui l'ai faite, que justement les personnes qui prient devant se sentent complètement touchées et directement par la Vierge, pas en se disant oh, c'est une belle statue d'André Jude, on s'en fiche. Hein. Le but, c'est de nourrir la prière intérieure. Quoi.
On espère que pour le 17 janvier 2021, donc on pourra trouver vos statues à Pontmain, dans les différentes boutiques ou à l'accueil du pèlerin, pourquoi pas. Et il y aura sans doute une mention disant qu'elle a été faite spécifiquement pour le 150e anniversaire.
C'est ça, exactement.
Et pour en revenir alors à vos travaux d'artiste, pas seulement autour de l'apparition de Pontmain, on n'a pas spécifié au départ que vous travaillez aussi sur commande, c'est-à-dire que je vois là dans votre atelier tous ces portraits, une femme avec une robe jaune magnifique, une enfant qui lit dans un fauteuil doucement éclairé par la lampe avec l'abat-jour un peu orangé, une personne âgée qui est assise et qui a les mains... l'une sur l'autre avec ses cheveux blancs et un fond noir. Enfin, le portrait vous inspire beaucoup et on peut vous demander de réaliser le portrait d'un de ses enfants, ou de son mari ou de soi-même.
Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai connu mon futur beau-père, hein, donc le père d'Amandine, qui est peintre, parce que mes parents ont voulu faire le portrait de ma grand-mère. Et donc ils ont trouvé par une voisine... ce peintre-là, qui est François Le Grand. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai découvert concrètement la peinture, ce que c'était que le métier de peintre. Donc j'ai suivi ma grand-mère pour faire son portrait. Et donc je me suis lié d'amitié donc, avec François Le Grand. J'ai vu concrètement ce que c'était que d'être un peintre et de vivre de sa peinture. Et c'est ce qui m'a donné en fait l'envie d'être peintre. Sinon, je n'avais pas trop l'idée, pas du tout. Donc effectivement, faire les portraits, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à ça. J'ai eu même un monsieur, André Levé. André Levé, qui était à Château-Gontier à un moment donné. Et Donc j'ai voulu faire son portrait et quand on lui a demandé, il a dit « Non, 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 je ne suis pas Louis XIV ». Donc il y a une espèce de... C'est vrai que c'est plus très naturel de faire son portrait. Évidemment, tout le monde se fait prendre en photo, mais on se fait faire son portrait, c'est des fois pas facile, mais en fait, c'est une très belle expérience. En fait.
Pour le peintre ou pour celui qui pose ?
Bah, pour celui qui pose, moi, oui, pour celui qui pose aussi. Ouais. Ah oui, c'est une autre dimension au temps. Hein. Tout à coup, on rentre dans un autre univers. C'est l'intérêt de la peinture, hein, c'est que justement, le rapport au portrait est complètement différent qu'une photo. C'est complètement autre chose.
Donc, on peut venir chez vous, on peut vous contacter et vous demander un portrait. Enfin, ça se fait toujours. Vous le faites toujours, en tout cas.
Oui. Bon, là, le week-end prochain, par exemple, je vais peindre chez les gens. Donc, c'est une scène de famille où il y aura les parents et les enfants à table ou sur la terrasse. Et c'est tout à fait possible, oui, bien sûr.
Et sinon, où est-ce qu'on peut admirer vos œuvres ? Vous organisez ou vous participez à des expositions à intervalles réguliers, un peu dans toute la France, mais sinon, on peut aller aussi sur votre site, peut-être, pour admirer ?
Voilà, on a fait un site, donc c'est, alors je vous le donne, c'est aajude.fr, donc AA pour Amandine et André. Et c'est effectivement une bonne manière de découvrir nos peintures. Après, c'est vrai qu'on expose à gauche, à droite. En fait, bah, sur le site, normalement... On n'est pas très très bon en informatique, mais normalement, on devrait le mettre à jour pour vous tenir au courant des expositions qu'on fait. On aimerait bien là, faire une exposition chez nous, parce qu'on a une très très belle maison, hein, c'est le prieuré Saint-Jean, qu'on a aménagé pour pouvoir faire des expositions ponctuelles. Et donc là, j'espère qu'on va bientôt faire le pas et on vous redira aux auditeurs, s'ils veulent venir, ce serait avec plaisir.
Bien, alors on espère, on attend et on espère. Eh bien, merci beaucoup alors André et Jude de cette visite un peu guidée de votre atelier chez vous. Et puis surtout, bien sûr, on sera vigilant en guettant et en attendant la sortie de ces nouvelles petites et grandes statues pour le 150e anniversaire de l'apparition de Pontmain le 17 janvier prochain à Pontmain. Merci André, à bientôt.
Merci, au revoir.